podcasts de Radio Vatican.
Le Mali ne tranchera pas pour ou contre la réforme de la Constitution tout de suite. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a finalement décidé le samedi 19 août dernier de reporter le référendum sur son projet de révision constitutionnelle jusqu'à nouvel ordre. Un abandon sous la pression de manifestations de masse de la société civile. Elle dénonce une réforme qui donnerait davantage de pouvoir au chef de l'État. Le président malien, lui, justifie sa décision par la nécessité de préserver l'intérêt supérieur de la nation et le climat social. Un climat très fragile, en particulier dans le nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Malgré des accords de paix signés en 2015 avec les groupes rebelles pour mettre fin au terrorisme, de nombreuses zones échappent encore au contrôle du gouvernement et aux forces internationales présentes sur le terrain. André Bourgeot est directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Mali. Il revient sur les raisons de l'abandon du référendum de révision constitutionnelle et sur la situation sécuritaire qui s'enlise dans le nord du Mali.
Je crois qu'il y a un rapport de force politique qui était tout à fait en défaveur de la révision de la Constitution, puisqu'il y a eu des manifestations, je dis bien des manifestations de masse qui ont regroupé plusieurs centaines de milliers de personnes à l'initiative de la société civile et d'une organisation qui s'appelle « Touche pas à ma Constitution », qui a fait en sorte qu'il y avait un tel mécontentement généralisé qu'il a été obligé de céder à la pression politique de la société civile et des partis de l'opposition qui l'a conduit à surseoir à la décision de la tenue du référendum. Maintenant, sur le contenu est le suivant. Pourquoi une telle opposition? Parce que il était proposé la création d'un Sénat. Et la création d'un Sénat impliquait que les deux tiers des composantes de ce Sénat étaient déjà élus et qu'un tiers revenait à la discrétion, donc à la nomination du président de la République. Donc ça revenait, en définitive, à conforter sensiblement les pouvoirs du président de la République, qui sont déjà extrêmement importants. Et donc là, il y a eu une opposition très très forte, c'est le premier point. Le second point, il avait fait appel aussi aux religieux musulmans pour siéger au sein de ce Sénat. Alors, chose intéressante qui est nouvelle, les musulmans favorables, si vous voulez, à l'influence de l'islam, ont dit « si nos leaders musulmans acceptent de siéger au sein du Sénat, nous, on va les lâcher ». Donc vous voyez, il y a eu conjonction de plusieurs éléments, donc à la fois laïcs et bien aussi religieux, qui ont fait en sorte qu'il était obligé de surseoir. Mais, autre aspect intéressant, c'est que le mouvement « Touche pas ma Constitution » ne veut pas rester là, parce qu'eux souhaitent le retrait définitif de ce référendum.
On est à un an de l'élection présidentielle de 2018. Quelle est la stratégie à travers cette décision de Ibrahim Boubacar Keïta?
Ça contrecarre les objectifs de sa stratégie, c'est-à-dire que ça remet en cause potentiellement son succès aux prochaines élections de 2018. Mais d'une part, d'autre part, renvoie aussi au fait que l'ADEMA, donc un parti politique qui était très puissant avant Ibrahim Boubacar Keïta, a appelé aussi à la présentation d'une candidature issue de l'ADEMA. Donc cette candidature vise aussi à affaiblir la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui est le fondateur du RPM.
Ibrahim Boubacar Keïta dit qu'il a pris cette décision, notamment à cause du climat en ce moment au Mali. Justement, quel est le lien avec le contexte sécuritaire, notamment dans le Nord?
De mon point de vue, c'est un argument fallacieux. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'ordre sécuritaire extrêmement importants, mais le fond du problème n'est pas ça. Le fond du problème, c'est qu'il y a eu un mécontentement très très fort de la part du peuple malien qui a demandé le retrait de cette révision de la Constitution. L'aspect sécuritaire, si vous voulez, est une donnée concrète, effective, mais c'est pas ça qui a conduit à faire en sorte qu'il n'y ait pas de référendum. Parce que dans d'autres circonstances, il y a eu des élections communales qui ont eu lieu dans des conditions sécuritaires identiques à celles qui prévalent actuellement. Donc c'est pas un argument véritablement sur le fond, c'est un argument de type fallacieux.
Quand ce référendum était encore d'actualité, IBK estimait que réviser la Constitution, ça contribuerait à la paix. Ça veut dire quoi?
Parce que là, il a recours au contenu des accords de paix. Mais les accords de paix ne stipulent pas la mise en place et la création d'un Sénat. Ça ne stipule pas la révision de la Constitution de 1992. L'enjeu politique, il était là. C'est une des raisons pour lesquelles, puisqu'il a insisté sur la tenue de ce référendum, son insistance a provoqué une solidarité au niveau national. C'est la raison pour laquelle il a été obligé de faire des concessions sur le plan politique. Il semblerait que la manifestation qui a été organisée par la société civile et par le mouvement « Touche pas à ma constitution » aurait réuni plusieurs centaines de milliers de personnes, et certains même avancent le chiffre de 1 million. Donc, quelque part, il a été obligé d'enregistrer et de prendre en considération ce mouvement de masse.
Pour parler un peu justement de la situation sécuritaire dans le Nord, l'opposition dénonce le manque d'administration et de contrôle de la part du gouvernement dans ces zones. Comment est-ce que c'est pris en compte cette situation de la part de la présidence d'Ibeka?
En tout cas, la question que vous posez, c'est une question fondamentale. On constate que depuis l'intervention de l'opération militaire française Serval, qui a contribué à enrayer l'influence des groupes armés salafistes djihadistes, on constate que 5 ans après, ces groupes armés salafistes djihadistes ne se limitent pas à intervenir exclusivement dans le septentrion malien, mais ils interviennent sur l'ensemble du territoire malien. Donc on peut considérer, au vu de ces faits-là, que ça a été un échec. Non seulement ils interviennent sur l'ensemble du territoire malien, mais ils interviennent aussi à l'extérieur, notamment au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et aussi en Algérie, N'Djamena. D'où le fait qu'il y a eu une réorientation de la politique française à travers le G5 Sahel, qui a pris l'initiative de créer une coopération entre les différentes armées nationales concernées par confrontées au problème du salafisme djihadiste, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Et ça, c'est une initiative. Pour qu'elle se mette en place, il faut des moyens financiers, il faut que ces armées nationales soient formées, donc elles seront opérationnelles peut-être dans 6 mois, dans 1 an ou dans 1 an et demi. Donc dans l'immédiat, on ne voit pas comment ça va pouvoir contrecarrer des pratiques de ces groupes armés. On l'a vu récemment au Burkina.
Et pourtant, elles sont sur le terrain depuis 2013, ces forces internationales. Comment on explique que ça échappe toujours au contrôle pour l'instant?
Vous dressez un constat. Moi, je fais exactement le même type de constat. Et je m'interroge sur le fait que comment, dans un pays qui a entre 18 000 et 20 000 militaires de tous bords, ça veut dire l'armée nationale malienne, ça veut dire l'opération militaire Barkhane, ça veut dire la communauté internationale incarnée par la MINUSMA, donc l'ONU, n'est pas en mesure de contrecarrer d'une manière définitive, peut-être pas définitive, mais en tout cas significative, l'influence et les pratiques de ces groupes armés salafistes djihadistes. C'est une question qui paraît pertinente. Maintenant, la réponse à cette question, elle est probablement d'ordre politique, parce qu'il y a aussi, au sein de la population malienne, des critiques très fortes qui s'exercent à l'encontre de l'opération Barkhane et à l'encontre de l'opération MINUSMA. Ils considèrent qu'il y a un soutien, non pas au groupe salafiste djihadiste, mais au groupe d'ex-rebelles indépendantistes. Donc vous voyez, plusieurs facteurs, plusieurs situations se combinent, se mélangent, et ça fait en sorte que c'est très difficile d'établir des analyses politiques pertinentes, parce qu'il y a conjonction de plusieurs facteurs, y compris au niveau des groupes armés salafistes djihadistes, qui maintenant interviennent par des petits groupes, 3-4 personnes, c'est ce qui s'est passé au Burkina. Une réorientation stratégique de la part des salafistes djihadistes.
Et ça veut dire que l'accord de paix n'est pas appliqué et n'est pas efficace?
Ah ben c'est clair, les accords de paix du accord d'Alger n'ont jamais eu une assise populaire, jamais. D'une part, d'autre part, ça n'a jamais été discuté au sein de l'Assemblée nationale. Or, ça concerne quand même le destin aussi d'une communauté qui est la communauté malienne. Donc ça a été extrêmement fragile. Et par ailleurs, comment comprendre, dans le contenu des accords de paix, il y a ce qu'on appelle des DDR, c'est l'application du désarmement, désengagement et réinsertion des groupes armés. Les groupes armés signataires des accords de paix sont toujours en armes. Donc on voit bien que le contenu des accords de paix, dit accord d'Alger, ne sont pas du tout appliqués parce que pas applicables. Il y a une opposition très très forte au niveau des populations.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.